message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Dans les années 98, c'est pas d'aujourd'hui, donc ça fait quelques années, déjà le Seigneur m'avait parlé sur ce sujet. Et j'avais donné une suite d'enseignements dans des églises concernant ce sujet. Puis voilà que l'Esprit de Dieu, à nouveau, me demande à nouveau de reparler sur ce thème. Et on va bien comprendre pourquoi, puisque c'est, nous pensons être la fin des temps, comme disait notre frère Daniel Anthony, et comme nous le disons aussi. Et je vous ai dit que, avant que le Seigneur revienne, même si c'est un grand temps où nous percevons l'apostasie à plusieurs niveaux, nous croyons et nous faisons une différence entre les chrétiens qui apostasient du Seigneur, qui tout doucement s'éloignent du Seigneur, et les chrétiens qui se consacrent au Seigneur. D'ailleurs, à la fin des temps, on fera la différence entre ceux qui sont consacrés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui se sanctifient et ceux qui se souillent, c'est une séparation entre les deux. On ne peut pas être arbitraire en disant « c'est le temps d'apostasie, c'est fini pour l'Église, elle n'a plus aucun avenir ». Donc ce matin, je voudrais vous réconforter et vous encourager, parce que lorsqu'il y a des grands temps de ténèbres, où les ténèbres règnent puissamment sur la terre, il y a forcément une action de Dieu qui va se déclencher. Vous ne dites pas « Amen ». Mais je voudrais qu'on entende un amen unanime. On dit quoi ?
Amen !
Et voilà que c'est bon. Pourquoi dire un amen du bout des lèvres, frères et sœurs, alors que c'est une vérité que nous sommes en train d'affirmer ? Alors, il y a dans l'Écriture, et il y a plusieurs passages, mais particulièrement un passage qui contient plein de perles et plein de précisions, plein d'indications, plein d'espérance, plein de changements aussi pour le peuple de Dieu, pour l'Église du Seigneur. Et j'aimerais partager ce trésor avec vous ce matin. C'est un vrai trésor. C'est une réflexion qui a été basée sur les Saintes Écritures, bien sûr, sur la parole, enseignée par l'Esprit Saint. Et je peux vous dire que la prédication, l'enseignement que vous allez entendre ce matin, est bien de l'Esprit. Je ne mets pas mon intelligence dans les choses de Dieu, je mets ma vie au service du Seigneur pour qu'il me conduise dans ce qu'il veut que je puisse vous communiquer ce matin. Il y a des choses qui sont dans le cœur d'un serviteur. Un serviteur doit dire toujours la vérité. Il ne doit pas rentrer dans les compromis. Et j'ai cette liberté dans cette assemblée de dire la vérité. Puis de toute façon, même si vous ne voulez pas l'entendre, je vous la dirai. Alors, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, la vérité, elle nous affranchit, elle nous rend libres. Amen. Elle nous rend libres, la vérité. Donc, ce matin, je voudrais regarder avec vous cette réflexion qui est tirée des Écritures et qui a été donc enseignée par le Saint-Esprit, mais qui est traduite avec des mots humains. Donc, faites-moi grâce, ne me lapidez pas à la fin de cet enseignement, mais faites la juste part des choses, afin que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur. J'ai mis « Ayez de l'indulgence, car c'est ce que j'ai cru comprendre avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. » Il y a dans ce message-là des principes fondamentaux concernant un vrai réveil. Et vous allez voir que ça correspond totalement à la situation de notre génération. Ce passage de l'Écriture se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29. C'est un réveil qui a eu lieu du temps du roi Ézéchias. On va lire ensemble ce début de chapitre 29. Ézéchias commença de régner étant âgé de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem et le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors donc, nous avons le nom de ce roi, c'est Ézéchias. On nous dit qu'il était roi de Juda. Il faut bien comprendre la situation à l'époque en Israël. En Israël, à cette époque-là, il y avait eu le schisme à partir de Salomon où le peuple d'Israël s'était séparé. Jéroboam avait emporté avec lui 10 tribus vers le nord et resté près de Jérusalem les 2 tribus de Juda et de Benjamin. Pourquoi ? Parce que si vous connaissez un peu les Écritures, vous allez vite comprendre que Juda est toujours resté près de Jérusalem parce qu'il y avait cette promesse que sortirait de la tribu de Juda celui qui devait venir, le Messie. Et même si Juda, parfois, s'est éloigné de Dieu, elle a toujours été fidèle, cette tribu, à Jérusalem. Et en ce cas d'espèce, il nous est dit que Ézéchias était le roi de Juda. Il n'était pas le roi d'Israël, mais il est bien spécifié, roi de Juda. Il avait 25 ans. Or, il faut qu'on parle un peu de ce roi. Ézéchias, pour moi, c'est un vrai miraculé. C'est un garçon qui n'aurait jamais dû être là. Il n'aurait jamais dû être roi. Son père était fou. Si vous regardez le père d'Ézéchias, qui était le roi Akaz, il y avait peu de chances pour que Ézéchias puisse régner. On va voir pourquoi. Donc, il nous est dit que la situation du temps où le roi Ézéchias commença de régner était un temps épouvantable d'apostasie et de terribles compromis pour le peuple d'Israël et particulièrement de son roi Akaz, bien sûr, père d'Ézéchias. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce roi Akaz pour qu'il ait amené et entraîné Israël dans l'apostasie? Voyez-vous, frères et sœurs, il faut que les conducteurs spirituels soient irréprochables. Si vos conducteurs font des compromis, ils emmèneront le peuple au compromis. Si le conducteur est fidèle et intègre, il amènera l'Église dans l'intégrité, dans la fidélité. Ce sont des principes immuables et on ne peut pas y réchapper. Donc, ce roi Akaz, il n'était pas très recommandable. Si vous voulez, on va lire ensemble 2 Chroniques 28, versets 1 à 4. Et vous allez comprendre pourquoi Ézéchias était un miraculé. Il est dit, Akaz était âgé de 20 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Bon, là, c'est la référence à David. Toujours, il y a dans l'Écriture référence à David parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un exemple pour tous les rois d'Israël. Donc, ce fameux roi, il n'avait pas fait comme David, son père. Mais il marcha dans les voies des rois d'Israël. Ah tiens, très intéressant. Il nous dit que ce roi Akaz, qui était roi de Juda, qui était près du temple de l'Éternel à Jérusalem, il marcha, comment ? Dans les voies des rois d'Israël. Donc, il a marché dans les voies de ces 10 tribus qui étaient dans le nord, qui se sont séparées après le schisme du temps de Salomon. Et vous savez pourquoi ? Salomon, qui avait demandé la sagesse à Dieu, il a reçu de la part de Dieu cette sagesse, il a commencé à régner avec Dieu, il a eu un bon début, mais il a eu une mauvaise fin. À la fin de sa vie, Salomon, il avait, nous semble-t-il, 1000 femmes et 700 concubines, et toutes des femmes étrangères, et il avait fait rentrer en Israël tous les cultes idolâtres de toutes ces femmes. Et à cause, d'ailleurs, regardez bien, Salomon, qui a engendré plein d'enfants, dans une sexualité débridée au travers de ces femmes étrangères, il va engendrer en Israël un problème qui est toujours latent aujourd'hui dans le peuple d'Israël. Le schisme, les 10 tribus qui se sont parties vers le nord, qui se sont éloignées de la périphérie, n'est-ce pas, du territoire d'Israël, ne sont plus jamais revenues en Israël. Pourquoi ? Parce que quand ils se sont désolidarisés de Juda et de Benjamin, quand ce schisme a eu lieu, le roi Jéroboam, il a introduit un culte nouveau dans ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'était les 10 tribus, moins les 2 de Juda et de Benjamin qui étaient restés fidèles à Jérusalem. 10 tribus en haut, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait instituer un ordre de sacrificateurs que ceux que l'Éternel avait dit de faire. C'est-à-dire, c'était les Lévites qui devaient être pour servir l'Éternel. Lui, il a fait un autre ordre de sacrificature qu'il a appelé les Kamarim. Kamarim, en hébreu, vient de Kamar, qui veut dire noir. Ces sacrificateurs, ils avaient une particularité, ils avaient des soutanes noires. Ah bon ? Des soutanes noires. Moi, il me semble que dans ma génération, j'ai vu des gens en soutane noire. Et ils avaient fait 2 lieux de culte, un à Dan et un à Bethel, où ils adoraient quoi ? Le veau. Ah, il a la vie tenace, celui-là, depuis la sortie de l'Égypte. Ils avaient introduit à nouveau l'idolâtrie dans le peuple d'Israël. Ils venaient faire des offrandes et des sacrificateurs, des sacrifices à des dieux étrangers, à des esprits de démons, parce que l'Écriture dit que les dieux étrangers, ce sont des esprits de démons. Donc, le père d'Ézéchias, non seulement il marcha dans les voies des rois d'Israël, il fit des images de fonte pour les Baals. Pour le dieu Moloch, vous savez, c'était des grandes idoles avec un large ventre et puis comme une espèce de cuve sous le ventre où on jetait les enfants en sacrifice dans une fournaise ardente et en même temps, les sacrificateurs ils criaient pour pas qu'on entende les cris des enfants qui étaient en train de cramer au nom de l'idole. C'est ce que faisait Akaz. Akaz faisait cela. Mais attendez. Il fit des images de fonte pour les Baals. Il fit fumer de l'encens dans la vallée des fils d'Émon. Il brûla ses fils par le feu. Akaz, il a brûlé ses fils par le feu. Et où était Ézéchias ? Vous savez, dans l'Écriture, il y a des choses merveilleuses. Nous voyons à un moment donné la reine Athalie qui veut supprimer toute la descendance et la semence royale de Juda. Elle va tout faire pour éradiquer la semence de Juda. Sauf que il y a un enfant qui va être gardé et protégé, qui sera plus tard le roi d'Israël. Un peu comme Ézéchias. Ézéchias, on ne sait pas d'où il sort. Il aurait dû être offert en sacrifice dans le feu. Je dis qu'il était un miraculé parce que Dieu l'a gardé, parce que Dieu avait un projet avec cet homme, parce que Dieu avait un appel avec cet homme. Et nous allons voir que le projet de Dieu avec cet homme est un projet merveilleux, un exemple pour nous qui arrivons à la fin des temps. Regardez, il est dit, il brûla ses fils par le feu selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il sacrifiait et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux et sur les collines et sur tout arbre vert. Non seulement Akaz a introduit dans le royaume de Juda des pratiques idolâtres en offrant des sacrifices vivants d'enfants, y compris ses propres fils, aux idoles. Il y a un but dans tout ça, vous allez le voir. Mais encore, il était gonflé. Il a pris toute la maison de l'Éternel, il l'a dépouillé de tout son or, de tout son argent, pour le donner au roi de l'Assyrie. Imaginez ce qu'il a fait. Le roi Akaz, un des plus mauvais rois de la dynastie d'Israël. Le 2 Chroniques 28, versets 21-27, va nous dire « Car Akaz dépouilla, c'est-à-dire il pilla la maison de l'Éternel ». et la maison du roi et des chefs, et donna les dépouilles au roi d'Assyrie, mais il ne fut d'aucune aide. Et au temps de la détresse, il ajouta aussi à son péché contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur sont en aide, je sacrifierai, ils me seront en aide. » Ils furent sa ruine et celle de tout Israël. Et Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, les mit en pièces. Les ustensiles de la maison de Dieu, il les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et fit cesser tout culte dans le temple. Il était fou. Fou. En faisant cela, il ne savait pas ce qu'il attirait de la part de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur lui. Akaz, père d'Ézéchias. Ézéchias, un miraculé, caché par Dieu. Toujours Dieu cache les hommes et les femmes qu'il va appeler à une action puissante. Ils ne sont pas vus des hommes. Dieu les cache. Et à un moment donné, Dieu va les révéler au grand jour. Il y avait le sceau de Dieu sur Ézéchias. Comme il y a le sceau de Dieu sur ta vie. Parce qu'alors que tu t'es caché dans le monde, Dieu t'a révélé à la lumière. Il avait un appel pour toi. Il t'a appelé. Il t'a sorti des ténèbres. Il t'est sorti de cette génération de ténèbres. Il t'a appelé à son admirable lumière. Dieu a un plan avec toi. Et quand Dieu t'appelle, il te scelle. De quoi ? Du Saint-Esprit. Il fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Non seulement, frères et sœurs, il a introduit l'idolâtrie. Il a mis en pièces tout le temple où Dieu avait dit, c'est là que résidera mon nom. Vous ferez point de sacrifice dans tout le territoire d'Israël. Vous viendrez apporter vos offrandes dans ce lieu. Il a pillé la maison de l'Éternel. Il en a retiré l'or, l'argent, pour le donner à qui ? Un roi païen, le roi d'Assyrie. Pourquoi ? Pour en tirer les bonnes volontés. Mais frères et sœurs, on n'achète pas. On n'achète pas Dieu. Ni avec de l'or, ni avec de l'argent. Même si tu veux, toi, essayer de faire en dehors de Dieu, en t'appuyant sur des appuis humains, tu te trompes, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Nous devons prendre garde et ne pas tomber dans le piège comme le fit Israël. Oui, parce que ce fameux roi Akaz, vous savez ce qu'il faisait encore adorer, ça la vie dure ces choses-là, hein. Il faisait adorer le peuple, le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué dans le désert, ça la vie dure, hein. Les idoles dans les cœurs, ça traîne pendant des siècles et des siècles, et nos idoles dans nos cœurs, frères et sœurs. Qui tu idolâtres dans ta vie ? Ta personne, ton mari, ton copain, ta copine, qui tu idolâtres dans ta vie ? Ta femme ? Ton fiancé, ta fiancée, qui ? Ta voiture ? Ton compte en banque ? Ton fric ? Quelle est l'idole qui est dans ton cœur ? Parce que quand le réveil vient, frères et sœurs, ça va être le moment où la lumière de Dieu va venir nous éclairer. Et ce moment où la lumière de Dieu va venir nous éclairer va faire que nous allons être tellement peinés de nos vies, de ce que le Seigneur va nous montrer, qu'il va falloir qu'on s'humilie. Si bien que quand ce roi il meurt, Akaz meurt, il nous est dit, mais on ne le mit pas dans les sépulcres des rois d'Israël. Ça veut dire qu'il n'a pas eu la place parmi les autres rois. Il était un très, très, très mauvais roi. Il a entraîné à sa suite tout le peuple. Comme c'est important que dans l'église du Seigneur, les serviteurs du Seigneur, les anciens du Seigneur, les diacres du Seigneur puissent donner le bon exemple. Si on est dans l'église et qu'on a un service, on le fait parce que Dieu nous a placés là où nous devions être placés. On ne se place pas mutuellement parce que tu es bien copain avec moi. Tu seras à ta place parce que Dieu t'aura mis à ta place. Pas parce que tu donnes une bonne dîme, parce que tu donnes une bonne offrande, parce que tu m'es sympathique. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Et je dis même, attention, attention ce matin à celui qui a reçu de la part de Dieu un don qu'il a mis un jour en pratique devant Dieu et qui, à un moment donné de sa vie, s'est retiré de ce don parce qu'il y a eu un problème quelconque dans sa vie. Attention, attention, Dieu te demandera des comptes. Nous ne pouvons pas mener nos vies comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas traverser nos épreuves comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas faire les choses comme nous l'entendons. Ce que nous devons entendre, c'est la voix du Seigneur pour nous diriger. Nous devons prendre garde et ne pas tomber dans le piège comme le fit Israël en adorant le serpent des reins. Que le sujet de la bénédiction de l'Éternel ne devienne pas pour nous une idolâtrie subtile dans laquelle nous pourrions tomber, aimant plus la bénédiction que le Dieu éternel de toute bénédiction. Vous comprenez la nuance? Tu n'aimes pas la bénédiction, tu dois aimer le Dieu de la bénédiction. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il te bénit, tu aimes Dieu parce que tu as de l'amour dans ton cœur pour lui, parce que le Saint-Esprit a répandu cet amour dans ton cœur. Ne dis jamais que j'aime Dieu avec mon amour humain. Ne le dis jamais cela. Parce que ce n'est pas cet amour que Dieu attend de nous. C'est l'amour de l'Esprit en nous. L'amour de l'Esprit en nous qui nous fait aimer Dieu. Parce que mon amour à moi, il est entaché par mon humanité. J'ai besoin de l'amour qui vient d'en haut, pur, saint. Un des principaux obstacles de l'église du Seigneur dans notre génération, c'est qu'on confond l'amour de Dieu avec nos sentiments. On mélange nos sentiments avec l'amour de Dieu. On a fait une espèce de mayonnaise infâme dans laquelle on veut être plus amour que Dieu lui-même. Je tiens à vous rappeler ce matin que l'amour de Dieu est intimement lié avec sa justice. Tu ne dissocies pas les deux. Si tu dissocies la justice de Dieu de son amour, il te manque une dimension et tu vas te perdre avec tes sentiments. Ben, l'exemple de ce roi Akaz, eh ben, il l'a déteint sur son peuple. Si le roi il donne pas, il qui a reçu l'onction royale, hein, parce que les rois ils étaient pas comme ça mis sur les trônes sans rien du tout. Ils avaient reçu l'onction de la part du sacrificateur pour régner. Mais imaginez, qu'est-ce que Akaz a fait de son onction? Fais attention, si tu as reçu l'onction de Dieu, t'as pas le droit de faire n'importe quoi avec l'onction de Dieu, tu comprends? Tu ne dois pas adapter l'onction à tes désirs personnels. Tu ne dois pas adapter l'onction à ce que tu désires toi, à ce que tu veux faire toi, à ce que tu penses toi. Tu dois adapter l'onction au désir de Dieu pour toi. Vous savez, des petits renseignements supplémentaires, parce que ce passage des Écritures, il n'est pas seulement dans les Chroniques, il est aussi dans le livre des Rois. Je vais vous le lire. Dans 2 Rois 17 et versets 9 à 23, je vais vous faire une longue lecture de ce qui se passait. Les fils d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu les choses qui ne sont pas droites. Les fils d'Israël firent en secret. Dis-moi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais en secret qui n'est pas droit devant les yeux de Dieu ? Tu crois que Dieu ne te voit pas ? Le psalmiste dit, si je m'en vais au ciel, tu y es, si je me cache en bas, au fond de la mer, tu y es, si je vais dans une grotte au fond, tu y es avec moi, Éternel. Comment tu peux te cacher devant Dieu ? Et les fils d'Israël, il nous est dit, ils firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, les choses qui ne sont pas droites. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis la tour des gardes jusqu'à, il est parlé de Jérusalem, là, jusqu'à la ville forte. Ils se dressèrent des statues dans les rues. Ça, moi, je le vois en Italie. Hein. Des statues, il y en a en Italie. À chaque croisement de route en Italie, vous avez des petits sanctuaires où dedans vous avez une vierge avec des bougies. Vous rentrez dans un appartement, vous grimpez des escaliers, à un moment donné vous trouvez une petite truc avec une vierge. Il y en a de partout. Ils se dressèrent des statues et des achères. Les achères, ce sont des troncs d'armes en forme féminine. Vous savez, la reine des cieux, elle a la vie longue et dure. Hein. Il nous est dit que, comme les nations que l'Éternel avait transportées de devant eux, ils firent des choses mauvaises pour provoquer à colère l'Éternel. En fait, ils provoquèrent la jalousie de l'Éternel. Ils servirent les idoles au sujet desquelles l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez point cela. Dis donc, combien de fois Dieu nous a parlé, il nous a dit, tu ne feras pas cela. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Tout à fait le contraire. Verset 15, 14, ils n'écoutèrent pas. Ils roidirent leur cou comme le cou de leur père qui n'avait pas cru à l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses statuts et son alliance qu'il avait faite avec leur père et ses témoignages qu'il leur avait donnés. Ils marchèrent après la vanité, agirent vainement en suivant les nations qui étaient autour d'eux, touchant lesquelles l'Éternel leur avait commandé de ne pas faire comme elles. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu et se firent des images de fonte de veaux. Frères et sœurs, les veaux et le veau d'or, c'est la religion. Le veau d'or, c'est l'uniformisme. Le veau d'or, c'est un bloc où, dans ce système-là, tous les gens sont pareils. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur veut. Le Seigneur, c'est le Dieu de la diversité. C'est le Dieu de la pluralité, c'est le Dieu qui veut que toi et moi, on ne soit pas pareil, qu'on ne fasse pas pareil. Dans la foi, dans la louange, dans l'adoration, on n'est pas pareil. C'est ça qui fait la beauté de l'Église. Sinon, je te fais un copie-coller. Selon le don de Dieu, pour l'unité commune, selon la diversité de Dieu, selon la grâce de Dieu. Dieu donne à un, Dieu donne à l'autre, mais il ne donne pas la même chose. L'Éternel fut très irrité, verset 18, contre Israël et les ôta de devant sa face. Il ne retint que la seule tribu de Juda. Et Juda non plus ne garda pas les commandements de l'Éternel son Dieu. Ils marchèrent dans les statuts qu'Israël avait établis, et l'Éternel rejeta toute la semence d'Israël. Il les affligea et les livra en la main des pillards jusqu'à ce qu'ils eurent rejeté devant sa face. car Israël s'était séparé de la maison de David, avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, et Jéroboam avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel et les avait fait commettre un grand péché. Et les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit pour tous ses serviteurs. Comme il l'avait dit par tous ses serviteurs, les prophètes, et Israël fut transporté de dessus de sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Nous sommes en danger devant Dieu chaque fois que nous résistons aux commandements de Dieu. Mais les commandements de Dieu, frères et sœurs, ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas durs à porter. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi dit tu feras. Mais aujourd'hui, le commandement, il est accompli par amour et dans l'amour. Et ce n'est pas pénible, ce n'est pas un fardeau. Si tu aimes Dieu, bien, tu obéiras à ses commandements par amour. Donc, nous comprenons que le roi Ézéchias est un miraculé. Il échappa au sacrifice que son père offrait au dieu Moloch. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Moloch. Peut-être que je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Il est un rescapé de la folie meurtrière de son père. Certainement, le sceau de l'Éternel était sur lui. Dieu lui-même l'avait choisi et mis en réserve pour ce grand réveil religieux dont il fut l'instrument entre ses mains. Maintenant, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, hein, ouvrez bien vos oreilles, un réveil, un vrai réveil, une visitation du Saint-Esprit sur un pays change. Pas seulement ta façon d'adorer ou de louer, elle change les structures politiques, économiques et sociales d'un pays. Alors, tous les réveils qui te font frissonner ta chair, qui te font dresser tes trois cheveux qui sont sur la tête, tout ce que tu dis, le Saint-Esprit, qui ne change même pas ta vie, ne viens pas me raconter que c'est un réveil. Viens me dire que ma chair est en train de se réjouir. Parce que quand un réveil vient sur une nation, comme Dieu va faire venir le réveil sur le royaume de Juda, eh bien, ce royaume de Juda qui est dissocié des 10 tribus d'Israël, alors Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà que par la grâce de Dieu, les 10 tribus d'Israël vont à nouveau faire alliance avec le royaume de Juda. Voilà le réveil. Un seul peuple, un seul et même esprit, un seul et même Seigneur. Ça, c'est le réveil. Alors, on continue. Vous savez, il y a l'Église, c'est comme des gamins. L'Église, c'est comme un enfant. Il y a plein d'enfants dans l'Église. Ah, alléluia! J'ai compris quelque chose sur la délivrance. Alléluia! Alors maintenant, je délivre. Tu délivres rien. C'est Dieu qui délivre. Et le plus souvent, fais attention. T'amuses pas avec les choses des ténèbres. Parce que tu vas avoir des coups de manivelle en retour. Fais attention, Église. Je suis bien placé pour le savoir. Non, mais on s'empare, vous savez, comme un joujou. Hop, je vais m'amuser avec. Et jusqu'à ce que j'ai épuisé ma joie avec ce joujou-là, je vais continuer à m'amuser. Et puis à un moment donné, je le délaisse. J'abandonne, je vais voir quelque chose ailleurs, si je peux prendre quelque chose dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu l'avait lui-même choisi et mis en réserve pour ce grand réveil religieux dont il fut l'instrument entre ses mains. Nous discernons ce principe qui nous vient directement du royaume de Dieu. Lorsqu'un grand temps de ténèbres vient sur le peuple de Dieu, Dieu suscite un temps de restauration et de réveil pour son peuple. Nous pouvons discerner ce principe dans tous les réveils religieux de l'Écriture. Tous. Lisez toutes les histoires des réveils, vous allez voir comment Dieu a agi. un réveil vient parce qu'il y a un grand temps de ténèbres qui était là. J'ai eu l'occasion une fois de partager avec une sœur qui s'appelle Finet, Jackie. Hein. Son grand-père, à cette personne qui est à Las Vegas, son grand-père était le grand Finet qui a fait les grands réveils religieux, dont Dieu s'est servi, des millions de gens qui sont venus au Seigneur. Et j'ai pu un peu parler un peu avec elle, et c'était exactement ça. C'est que quand son grand-père venait, que le réveil débutait, c'était un bouleversement social du coin. Les alcooliques qui étaient dans les bistrots, ils étaient tellement pressés par le Saint-Esprit qu'ils venaient, conduits par l'Esprit dans les églises pour se donner au Seigneur et être délivrés de leur alcool. Les structures sociales des villes étaient changées. Il y a même des témoignages encore aujourd'hui en Colombie, dans certaines villes comme Bogota, il y a des églises qui se tiennent à la brèche, et le fait qu'elles se tiennent à la brèche, les responsables de la police travaillent avec eux parce qu'ils savent qu'ils prient et que la situation s'améliore parce que les chrétiens vraiment engagés prient et que les ténèbres reculent. Alors, il existe plusieurs exemples dans l'Écriture où l'Éternel préserva un homme pour être un instrument de sa grâce. Par exemple, Joseph, ou Moïse, ou Joas, ou Josias, ou Ozias, ou Joas avec Athalie. Ils ramenèrent tous le cœur du peuple vers leur Dieu. Alors on peut s'entendre à quelque chose, quand il y a un grand temps de ténèbres comme cela, il y a deux choses qui peuvent se passer. Un, où Dieu juge, et le jugement tombe sur le peuple de Dieu, et Dieu l'envoie en déportation. Il le met entre les mains de ses ennemis, où Dieu agit dans sa miséricorde, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il agit dans sa miséricorde et il envoie un réveil. Un réveil, c'est faire retourner le cœur du peuple de Dieu vers son Dieu. Je répète, un réveil, c'est de faire tourner le cœur du peuple de Dieu à nouveau vers son Dieu. Regardons ce que fait Ézéchias. Vous allez comprendre comment cet homme a agi. Il nous est dit que dans 2 Chroniques 29, que Ézéchias commença de régner étant âgé de 25 ans. C'est jeune, hein, 25 ans. Quelle lourde charge pour un jeune de 25 ans de prendre la tête d'un royaume. Apparemment, aucune expérience, hein, à 25 ans pour diriger un pays. Hein. On n'a jamais vu un homme politique prendre en main un pays. On les voit, ils ont tous 60 ans, ils sont près de la retraite qu'ils prennent. On n'a jamais vu encore, à part Kennedy, et encore, il avait un certain âge. Mais il nous est dit qu'il avait 25 ans. On nous a donné le temps qu'il régna, 29 ans. On nous a donné le nom de sa mère. On a dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et voilà le verset 3. Regardez bien comment le règne de ce roi commence. Il nous est dit, la première année de son règne, son premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Dites donc, le premier mois, que c'est précis, la première année de son règne, que c'est très précis, au lieu d'aller chercher des alliances avec les peuples autour pour essayer d'avoir une paix relative, au lieu de commencer à s'occuper des affaires de son royaume, la première chose qu'il fait, il pose son regard sur la maison de l'Éternel. Allez, c'est bon. Il pose son regard sur la maison de Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez, son cœur est saisi de compunction, son cœur est attristé, son cœur est fracassé de voir l'état dans lequel se trouve la maison de l'Éternel à cause de son père. Toutes les portes abattues, l'intérieur de la maison de l'Éternel, pillé, il n'y a plus rien dedans. Et son père, il avait tout donné, il s'était vendu au roi d'Assyrie, il avait vendu, vous savez, ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. Faisons attention, ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. Faisons très attention. Très, très attention. Alors, il posa, ce que j'aime bien moi, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il pose son regard sur les portes de la maison de l'Éternel. C'est lourd de conséquences. Est-ce que tu poses ton regard sur l'Église ? Ou l'Église, c'est quelque chose d'accessoire dans lequel tu trouves un pasteur qui est sympa, oh, des frères et des sœurs qui sont là. Mais plus que cela, l'Église, c'est la fiancée du Seigneur. L'Église, c'est quoi l'Église ? C'est tous tes frères et sœurs réunis ensemble. L'Église, c'est quoi ? C'est le projet du cœur de Dieu. C'est ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et le fardeau du cœur de Jésus dans notre génération, c'est de voir l'état de l'Église dans laquelle elle se trouve. C'est pas reluisant, hein. Mais le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il va envoyer un nouveau souffle de vie pour redonner vie à son épouse. Est-ce que tu crois ça, Église ? Est-ce que tu crois à une visitation du Seigneur qui va changer ta mentalité ? Et qui va changer ton regard sur l'Église, sur tes frères, sur tes sœurs ? Qui va t'inciter à mettre ta vie en règle pour être agréable au Seigneur ? Ou alors, as-tu oublié que Jésus est mort à la croix pour toi, pour tes péchés ? As-tu oublié l'œuvre de la croix ? Et une des caractéristiques de l'Église de notre génération, c'est de ne plus prêcher la croix. Bien sûr, on a mis le péché dans l'Église. On ne va pas prêcher la croix, hein. Tu serais malvenu de dire que Jésus est mort pour tous les péchés, toutes les iniquités, et de permettre dans l'Église qu'il y ait du concubinage, qu'il y ait de l'adultère dans l'Église, qu'il y ait des choses comme ça qui se trouvent dans l'Église. Tu serais mal placé, n'est-ce pas? Et toi, quelle serait ta position devant Dieu? Oui. Quand Ézéchias va commencer à poser son regard sur la maison de l'Éternel, il n'a qu'un seul désir, de rétablir le culte au Dieu vivant. Et un des principes spirituels les plus importants dans un réveil, c'est de rétablir un véritable culte à Dieu. Pour cela, il va falloir évacuer de la maison de l'Éternel, du temple, toutes les souillures qui sont dans le temple. Si tu veux avoir un réveil dans l'Église du Seigneur, il va falloir sortir de l'Église toutes les souillures qui sont dans les cœurs. Tu me diras, mais frère, on appartient à Jésus. Alors je vais te dire, tu as raison mon frère, ma soeur. Ta réflexion est juste. Mais dis-moi, encore dans un corps de péché. Qui ce matin viendrait me dire qu'il est sans péché encore? Jésus l'a fait pour nous, mais ta nature pécheresse, qu'est-ce qu'elle engendre en toi? Dans tes pensées, dans tes actes, dans ce que tu entends. Hein? Voyez-vous, frères et sœurs, nous ne sommes pas des gens qui devons être des gens de l'à peu près de la parole. Nous devons être de la parole. Pourquoi? Parce que si un réveil vient, et j'ai lu une histoire de réveil un jour au Pays de Galles, je crois que c'était au Pays de Galles, en Écosse, et ça m'avait frappé. C'est quand l'Esprit de Dieu est venu dans une église, vous savez ce qui s'est passé? Alors, c'est pour ça que souvent je regarde ces colonnes. Il y avait les anciens qui étaient accrochés après les colonnes. et qui confessaient au Seigneur leurs péchés. Moi, je suis allé il n'y a pas longtemps dans un pays en mission et j'ai vu des responsables, j'ai vu des gens qui servaient Dieu, qui avaient une responsabilité, tout d'un coup convaincus de péché par le Saint-Esprit, ils commençaient à confesser leurs péchés devant l'Église. Oui ou non? Qui est témoin de ça? Tu peux lever la main, Georges et Françoise? Et ma femme, tu peux? Oui, oui. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il ne veut pas te laisser dans ton péché. Il veut te sortir de ta condition. Il ne veut pas que tu restes dans ton état. Il veut que tu sois libéré pour servir le Dieu vivant. Et puis, regardons le roi Ézéchias. C'est le vrai principe de l'Église. Il nous est dit là, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Frères et sœurs, quand Ézéchias fait cette chose, c'est qu'il a une intention profonde dans son cœur, c'est que l'autel des sacrifices soit rétabli. Ça veut dire que si l'autel des sacrifices est rétabli, le pécheur peut venir à l'autel. Il peut offrir son sacrifice pour le péché, il peut confesser ses péchés devant le sacrificateur. À nouveau, le chemin de la vie est recréé. Vous avez rien compris à ça? Tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu n'es pas passé par la croix. À la croix, c'est là qu'il faut que tu sortes de ta vie tout ce qui te pèse dans ton cœur. Toutes les souillures. Dieu va dire à Israël, circoncisez le prépuce de vos cœurs. Ça veut dire, dans le prépuce, caché sous le prépuce, il y a des saletés, il y a des impuretés. Hein, nous les hommes, on sait ce que c'est, hein, le prépuce de nos sexes. Hein, on sait que si on n'est pas d'une bonne hygiène, là va se cacher dedans des pourritures. Dieu dit, mais circoncisez, domptez vos passions réfrénées, sortez de vos cœurs toutes sortes de péchés qui dorment en vous. Ou alors, Jésus est venu en vain à la croix. Si Jésus est venu à la croix, c'est pour te délivrer de tes péchés. C'est pour pas que tu sois dans un état où tu vas essayer de suivre le Seigneur avec un passif de péché que tu n'as pas remis entre les mains de Dieu. Libère-toi, mon frère. Libère-toi, ma sœur. T'en as pas marre de traîner la savate. T'en as pas marre d'aller de maladie en maladie, de dépression en dépression. T'en as pas marre, dis-moi, tu en as pas marre? Immédiatement, dès la prise de pouvoir de son règne, le premier mois de la première année, notons la précision pour nous faire comprendre qu'il ne perdit pas de temps en vaine futilité, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, mais il fit de l'Éternel ses délices et l'unique objet de ses projets. Et là, frères et sœurs, on retrouve le principe immuable de Jésus qui nous a dit « Cherchez ». Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Voilà. Et il a cherché le royaume de Dieu par-dessus tout. Non. Pas d'arrangement, tu comprends? Pas d'arrangement dans ta vie. Pas d'arrangement. Ça, c'est déjà pratiqué par ce roi. Il cherche le royaume de Dieu et sa justice. L'intelligence de ce jeune roi fut de mettre le Dieu vivant à la première place dans sa vie et dans la vie du peuple. Pas seulement dans ma vie, mais dans la vie du peuple. Pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de l'Église. Pas seulement dans la vie du roi, mais dans la vie du peuple. Son premier regard en dit long sur ses intentions. Il le pose, son regard, sur la maison de l'Éternel. Dévastée, souillée, en partie détruite, il n'aura de cesse jusqu'à ce que la vraie adoration soit rétablie dans la maison de Dieu. Première action, il nous est dit qu'il ouvrit les portes et les répara. À nouveau, nous pouvons pénétrer en la présence de Dieu. À nouveau, le vrai culte peut se dérouler. Les portes sont ouvertes et rétablies pour le vrai culte. Frères et sœurs, combien de fois les portes sont fermées parce que le Saint-Esprit est dehors? on a mis dehors le Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a de très nombreuses années, ici, dans cette église, ça devait être en 2002, je sortais certainement de mon opération, j'étais en train de prêcher ici, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me dit, pars, sors dehors. J'ai abandonné mon micro, et je suis parti dehors, et j'ai fermé la porte, et de dehors, j'ai commencé à frapper sur la porte. Qui se souvient de ça? J'ai frappé sur la porte. Pourquoi faire? Pour qu'on m'ouvre la porte et que je puisse rentrer. Et j'ai dit à l'église, nous avons mis dehors Jésus. Et lui, désespérément, il frappe à la porte pour pouvoir rentrer dans le cœur de son église. Nous avons mis le Seigneur dehors avec toutes nos fausses doctrines, avec nos façons de faire et de penser, avec nos institutions humaines, nous l'avons mis dehors. Si quelqu'un entend frapper à la porte et qu'il ouvre la porte, alors, dit le Seigneur, je rentrerai moi et mon Père. Nous avons mis Jésus dehors de nos églises. Et nous avons substitué l'œuvre du Saint-Esprit par des œuvres humaines. Deuxième action. Maintenant, la maison doit fonctionner avec ceux que l'Éternel a choisis pour le servir, à savoir les Lévites. Deux ordres très précis sont donnés. Sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. En clair, rétablissez le saint service que vos pères ont tous abandonné. Vous-même, sanctifiez-vous selon les commandements de Moïse. Frères et sœurs, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas mis à part par Dieu et pour Dieu. Sanctifiez-vous, ça veut dire quoi? Mis à part. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été mis à part pour Dieu. Ton service, il n'aura qu'un seul. Si tu n'as pas été mis à part pour Dieu, si tu t'es pas mis à part pour Dieu, ton service, il n'aura aucun sel en toi. Tu auras beau être sympa, gentil, tout ce que tu voudras, ça ne sera pas suffisant. Jésus a dit, il faut que vous soyez salé de sel, que vous ayez du goût en vous-même. Si tu veux servir le Seigneur, il faut que tu aies ce goût et que tu donnes le goût à tes frères, à tes sœurs. Tu ne peux pas te permettre d'être lénifiant. Il faut que ton message il soit salé. Il faut qu'il y ait du goût. Il faut que tu donnes envie aux autres. Je n'ai pas commencé mon message. Qui a de l'intelligence pour dire « Je ne regarde pas ma vie comme une proie arrachée. Ce que je suis, je veux jouir des biens de ce monde. Oui, un peu de Dieu, mais aussi un peu pour moi. Et je dois moi aussi vivre. » Si tu veux vivre pour toi, tu meurs. La seule vie que nous devrions connaître, frères et sœurs, c'est la vie que l'Esprit de Dieu nous donne. Celle-là, elle est bonne. Elle est juste. Elle est agréable. Elle porte du fruit. Et du fruit en abondance. Sanctifiez-vous. C'est clair. Il va dire au verset 5, maintenant, sanctifiez-vous. Et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et quoi? Et qu'est-ce qu'il dit? Qui va me le dire? Qui va me le lire? Vous suivez la parole là? Et qu'est-ce qu'il dit? Jetez la souillure hors du sanctuaire. Nous n'avons rien compris aux valeurs du royaume. Nous avons eu affaire à un évangile à l'eau de rose. On a cru que parce que on disait Jésus, qu'on avait soi-disant accepté Jésus, comme si tu avais accepté Jésus. Mais dis-moi, le jour où tu as rencontré Jésus, tu n'étais même pas en état d'accepter quoi que ce soit, si ce n'est une grâce du Seigneur sur ta vie. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Soyez des serviteurs et des servantes zélés. Vous vous rappelez ce que Jésus disait? Le zèle de ta maison me dévore. Qui, au milieu de nous, a un zèle qui le dévore pour l'Église? Qui? Le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire que la pensée de Dieu en toi, elle est sans cesse en toi. Elle agit sans cesse en toi. Elle te fait prier, elle te fait pleurer. Elle te fait te réjouir. Le fait que tu te sanctifies, parce que je vous signale, et vous connaissez la parole de Dieu bien mieux que moi, n'est-ce pas? Il est dit dans l'Écriture que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors tu le sais ça. Tu le sors ton chapelet de versets. Tu peux le sortir, tu le connais par cœur. Seulement entre le connaître et le vivre, entre le connaître et le vivre, entre l'enseigner et le vivre, c'est une autre paire de manches. Je vous renvoie à toutes les prédications qui ont été données ces derniers mois sur la sainteté de l'Église, sur notre sanctification, comment servir le Dieu Saint, etc. Je vous renvoie à toutes ces prédications qui ont été données et qui auraient dû nous rendre intelligents. La base de tout réveil réside dans le fait que nos vies et celles de l'Église doivent reconnaître leurs péchés et se purifier. Ainsi, il en fut pour les serviteurs de l'Éternel, l'ordre de sanctification était adressé par le roi. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites et les assembla sur la place orientale. Il leur dit, il les assembla tous et il leur dit, écoutez-moi lévites, maintenant sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et jetez dehors toutes les souillures du sanctuaire. Et si ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je vous dis, sortez de vos vies toutes vos souillures. Je vous le dis publiquement. Sortez de vos vies tout ce qui vous souille encore dans vos cœurs. Sanctifiez-vous pour servir l'Éternel. Pourquoi nos services manquent de puissance? Parce que nous voulons servir Dieu à notre manière. Un peu avec Dieu, un peu avec le monde. Ça ne marche pas. Il y a très peu de puissance dans les services après. Nous n'avons pas compris encore. Et nous n'avons rien compris encore. Parce que, si, comprenez-moi bien, c'est que c'est une question pour nous de vie ou de mort, quoi. C'est une question de vie ou de mort. Premier impératif, que toute souillure soit extirpée de nos vies et celle de la vie de l'Église. Comme cela s'est produit pour les Lévites, sanctifiez-vous. Et pour le sanctuaire, ôtez la souillure hors du sanctuaire. Ici, nous comprenons qu'il est temps d'extirper toutes les souillures du temple de l'esprit que nous sommes. Il n'y a pas qu'un temple matériel à Jérusalem. Mais il y a aussi, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, les temples que nous sommes. Dieu, Paul dit que celui qui souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Oui ou non ? Oui ou non ? Il va dire, mais glorifiez donc Dieu dans vos corps. Nous n'en avons rien compris encore des choses concernant Dieu. Où on a, je m'excuse, on a un autre évangile. On a un autre évangile que le vrai. Et les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier et jetèrent dehors au parvis de la maison de l'Éternel toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les Lévites les prirent pour les jeter dehors dans le torrent du Cédron. Ils commencèrent la sanctification le premier jour du premier mois, et au huitième jour du mois, ils vinrent au portique de l'Éternel et sanctifièrent la maison de l'Éternel pendant 8 jours. Ici, nous avons référence aux ordonnances du Lévitique, où Dieu avait donné ses ordres à Moïse pour les Lévites, pour la sanctification et pour la purification. Ils ont agi selon les commandements de Dieu. Ils ont jeté dans le Cédron, dans le torrent du Cédron, toutes les impuretés. Vous savez que c'est une belle image, hein ? L'eau qui emporte toutes les impuretés. Hein ? On est purifié par le sang de Jésus, mais on est lavé par l'eau du Saint-Esprit. Par l'eau, la parole. On est lavé. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? On est purifié par le sang de Jésus, mais on est lavé dans notre marche quotidienne par l'eau de la parole, par le Saint-Esprit. À un autre grand principe nous est clairement indiqué ici, l'obéissance. Ce principe spirituel donne l'occasion à l'Éternel de nous conduire plus loin dans son projet de réveil et un retour vers lui. Le réveil commence par nos vies et ensuite est communiqué à l'Église. Peut-être même, dans notre propre foi, nous avons tourné le dos à notre Dieu, parfois même sans nous en rendre compte. Mettre nos vies en règle, tel est le principe fondamental d'un vrai réveil. Frères et sœurs, l'apostasie, je l'ai toujours dit, je le répéterai ce matin, ce n'est pas un abandon de la foi. Aucun chrétien ne vous dira qu'il va l'abandonner à Jésus, aucun. Non, ils vous diront non. Mais l'apostasie, c'est un glissement imperceptible, chaque jour, mois après mois, année après année, qui commence à nous éloigner du Seigneur. Jamais personne ne vous dira « je renie Jésus », surtout un chrétien. Mais la façon dont il vit, la façon dont il témoigne de sa vie, on voit très bien qui s'est éloigné du Seigneur. Une lente dérive. Moi, ça me fait penser à des images de ma jeunesse. Parce que j'étais dans un pays où vraiment c'était... On avait la joie de pouvoir pêcher, quoi. Pas pêcher, pêcher le poisson. Et on avait deux sortes de pêche. On avait la pêche où on repérait des coins que seuls les anciens savaient que là, il y avait du poisson. Alors on venait avec le bateau, on jetait l'ancre et là, on pêchait, on remplissait les paniers. Mais il y avait une autre pêche. C'était la pêche dans laquelle on ne jetait pas l'ancre. On se laissait dériver pour tomber sur le bon banc de poisson. Mais bien souvent, on était tellement occupé avec la palangrotte à la main d'essayer d'avoir une touche qu'on ne se rendait pas compte qu'on avait dérivé. Et des fois, on se trouvait 2, 3, 4 kilomètres du point où on était. Ça, c'est l'apostasie. Tu ne te rends pas compte comment tu es en train de dériver lentement loin du Seigneur. Tu es tellement focalisé par ce que tu fais et ce que tu es en train de vivre que tu ne vois pas que tu glisses. Mettre de l'ordre dans nos vies et dans l'Église, c'est quelque chose que Dieu veut. Et le livre des Chroniques va nous dire encore, car nos pères ont été infidèles, de Chroniques 29, versets 6 à 8, car nos pères ont été infidèles et ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et l'ont abandonné, ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. C'est ce que j'appelle, moi, de l'apostasie. Ils ont tourné le dos à l'Éternel, ils ont tourné leur face de la demeure de l'Éternel. Même, ils ont fermé les portes du portique, ont éteint les lampes. Ça veut dire, ils ont éteint le chandelier dans le lieu saint. Il n'y a plus de témoignage, n'est-ce pas? Et c'est comme dans l'Église. S'il n'y a pas ici, dans cette Église, une réserve d'huile, c'est-à-dire une réserve d'esprit, de l'Esprit Saint que nous fabriquons dans nos maisons, au travers de nos prières, à travers de nos intercessions, et que nous venions ici remplis de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Pour que le chandelier de l'Église puisse briller aux yeux de tout le monde, tôt ou tard, frères et sœurs, si nous ne faisons pas ça, le chandelier va s'éteindre. L'Église va s'éteindre. Quelle terrible responsabilité! Ne dites jamais que c'est la faute du pasteur. Ne dites jamais que c'est la faute des anciens. Si vous voulez un puissant témoignage de l'Église locale, il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit et pas seulement que nous. Et cela, vous le fabriquez où? Dans vos maisons, dans la relation avec Dieu, dans le temps que vous passez devant sa parole. Vous revenez rempli de l'Esprit et rempli ici de l'Esprit en venant à l'Église, vous allez apporter la quantité d'huile que vous avez produite dans vos maisons afin que le chandelier de l'Église brille. Que si tu exhortes, tu exhortes. Que si tu édifies, tu édifies. Si tu enseignes, tu enseignes par l'Esprit. Donc, ils ont éteint les lampes et n'ont pas fait fumer l'encens. Vous savez ce que ça veut dire, ça, hein? J'espère que vous avez vite compris ce que ça veut dire, éteindre. Ils n'ont pas fait brûler le chandelier. C'est-à-dire, il n'y avait plus de témoignages en Israël de la présence de Dieu. Et éteindre l'encens, il n'y avait plus de prière qui s'élevait vers Dieu. Mais une prière qui s'élève vers Dieu, sans être ointe par l'autel des sacrifices, n'a aucune puissance. Nous l'avons vu l'autre jour. L'autel des parfums dans le lieu saint, il tire toute sa force de l'autel des holocaustes. Ça veut dire que ta prière et ton intercession, elle tient ta force, la force qui est en toi, de l'œuvre de la croix que tu as acceptée par le moyen de la foi dans ta vie. Jamais de la vie, ta vie de prière sera puissante si elle n'est pas basée sur l'acceptation que le sang de Jésus t'a lavé et purifié. Sinon, on n'a rien compris. L'autel des parfums, qui était un autel carré, tout en or, avec quatre cornes à ses quatre coins, où là où on faisait fumer l'encens devant l'Éternel, devait être aspergé de sang. Pourquoi ? Et ce sang était pris à l'autel des holocaustes pour être aspergé sur l'autel des parfums. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que nos prières ne peuvent avoir de puissance que si elles sont basées sur l'œuvre de la croix. Alors, arrête avec tes chapelets. Arrête avec tes dizaines, avec tes neuvaines, avec tes centaines, je ne sais pas trop quoi encore. Arrête avec toutes ces choses. Seule une prière ointe de l'Esprit qui tire sa puissance de l'œuvre, de la croix, peut être efficace devant Dieu. Ils ont fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes, ils n'ont pas fait fumer l'encens et n'ont pas offert l'holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. Alors l'holocauste dans le lieu saint, dans le sein d'Israël, c'est l'holocauste qui était offert pour le péché du peuple, hein, le jour du Kippour. Hein. Alors avec ce sang, on venait non seulement devant l'autel des parfums, mais on rentrait aussi dans le lieu très saint, on aspergeait le propitiatoire de sang, n'est-ce pas ? C'était un moyen pour Dieu de faire propitiation, faire grâce au peuple de Dieu. Car le sang répandu sur le propitiatoire et était comme une garantie que Dieu se montrait favorable. Parce que sous le sang, il y avait la loi. Et la loi te condamne. S'il n'y a pas le sang de Jésus, la loi te condamne, tu comprends bien. Est-ce que tu comprends cela? Parce que dans l'arche, il y avait la loi. Hein, et parce que sur l'arche, il y avait le propitiatoire et il y avait le sang. Et Dieu se montait propice à cause du sang. Sinon, la loi te condamnait. Béni soit le Seigneur pour les merveilles de sa parole. Béni soit le Seigneur pour tout ce que le Seigneur nous donne à saisir, à comprendre par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur de savoir que tous ces principes spirituels que le Saint-Esprit nous montre ce matin, c'est comme un appel pour nous préparer dans ce temps qui arrive. En tout cas, soyez bénis, parce que Ézéchias, il va nous en apprendre d'autres dimanche prochain. Hein? Et peut-être que ce sera encore l'occasion pour nous de faire un pas de plus avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.